Bonjour à tous. À la une, ce matin, alerte au typhon au Japon. Des vents de 220 km/h, des vagues de 20 mètres s'abattent sur l'ouest de l'archipel. Nous serons avec notre correspondant sur place dans un instant. Procès d'une rixe ou procès politique, trois skinheads jugés aux assises aujourd'hui après la mort de Clément Méric il y a 5 ans. Les choix d'Emmanuel Macron, journée cruciale aujourd'hui. Il devra remplacer Nicolas Hulot, peut-être remanier plus largement son gouvernement et avancer sur l'impôt à la source. Question technique autant que psychologique. Et puis au lendemain de la rentrée, un scientifique spécialiste du cerveau, invité à 8h20, c'est un proche de Jean-Michel Blanquer.
Stanislas Dehaene, comment organiser l'école, la réorganiser éventuellement, former les professeurs pour stimuler constamment le cerveau des élèves, des enfants? Stanislas Dehaene, donc à 8h20, vos questions 01 45 24 7000.
À la une également, les musées français face au risque d'incendie après la destruction du musée national du Brésil hier. Theresa May et le tic-tac du Brexit. Son propre camp lui met des bâtons dans les roues. Et puis bon anniversaire Google, 20 ans aujourd'hui et une suprématie absolue presque partout dans le monde. Et direction le Japon pour commencer. Le Japon, frappé par un typhon d'une extrême violence, le plus gros qu'ait connu l'archipel depuis 25 ans. Bonjour Frédéric Charles.
Bonjour.
En direct de Tokyo pour France Inter, Frédéric, les vents et les pluies commencent à s'abattre sur Osaka, la deuxième ville du pays.
Oui, c'est ça, une ville géante comme Osaka, 10 millions d'habitants au moins, se sait vulnérable au passage de ce typhon, à ces pluies d'une ampleur exceptionnelle. L'urbanisation a des conséquences néfastes, comme l'aggravation de la violence des crues, les inondations, les glissements de terrain, des coulées de boue. Des consignes d'évacuation ont été données à 280 000 personnes. Les grands magasins et les écoles d'Osaka sont formés. Les liaisons ferroviaires aériennes sont suspendues. Et à Tokyo, le Premier ministre japonais Shinzo Abe vient de tenir une réunion de crise. Il appelle les populations à se protéger.
Qu'est-ce qui va se passer maintenant, Frédéric Charles ?
Eh bien, les vents et les pluies de ce typhon risquent d'atteindre aussi, on l'oublie peut-être, la centrale nucléaire de Takahama, 4 réacteurs, qui alimentent la région d'Osaka en électricité. Son opérateur assure que toutes les mesures de sécurité nécessaires ont été prises. La centrale, ajoute-t-il, est construite pour résister à des séismes et des typhons d'une forte puissance. Au moins 50 000 foyers sont déjà privés d'électricité dans l'île de Shikoku, au sud-ouest d'Osaka, la première à être touchée par le typhon. La région d'Osaka et celle d'Hiroshima ont déjà été dévastées en juillet par des pluies catastrophiques qui ont fait 220 morts.
Frédéric Charles de RFI en direct de Tokyo.
Il est 8h04, Florence, en France maintenant. Son visage à lui était devenu le symbole de l'engagement antifasciste.
5 ans après la mort de Clément Méric, 3 skinheads comparaissent à partir d'aujourd'hui aux assises de Paris. Le jeune homme de 18 ans avec sa bande d'antifa avait croisé la route d'une bande d'extrême droite. Est-ce une rixe qui a mal tourné ou bien une agression politique? Voilà ce que le tribunal devra déterminer, Corinne Audouin.
Cet après-midi-là, tout s'est joué en une minute. Les deux groupes se toisent lors d'une vente privée de vêtements. Plusieurs témoins relatent des échanges tendus, mais dans la rue, ce sont les poings qui parlent. Esteban Morillo reconnaît avoir donné 2 coups à Clément Méric, mais c'était pour se défendre, explique son avocat, maître Patrick Maisonneuve.
À l'origine, c'est bien les amis de Clément Méric qui les attendent. Et s'ils attendent, c'est pas pour avoir un débat intellectuel. S'ils attendent, c'est pour en découdre. C'est malheureusement quelque chose de très simple, une bagarre qui effectivement va mal tourner. Mais il n'y a pas une démarche politique de la part de Morillo et de ses amis pour aller en découdre avec les antifas. Ils sont dans un magasin en train de choisir des vêtements.
Du côté des partis civils, on réfute cette thèse de la rixe. Michel Tubiana défend 2 amis de Clément Méric présents ce jour-là. Les antifas ont été victimes, dit-il, d'une agression délibérée.
On ne répond pas à des mots éventuels par des coups de poing américains. Bien évidemment qu'il y a une dimension politique, puisque cette violence n'est pas une violence de bar. C'est une violence construite, idéologiquement construite. Et en ce sens, bien évidemment, on abordera ce que pensent les agresseurs.
Le mentor des accusés, le leader d'extrême droite Serge Ayoub, viendra d'ailleurs témoigner au cours du procès.
Et après la mort de Clément Méric, souvenez-vous, 4 groupuscules d'extrême droite avaient été dissous. Il est des jours comme ça où l'agenda explose. Nommer le remplaçant de Nicolas Hulot avant ce soir pour qu'il siège au Conseil des ministres demain. Sortir de la confusion sur le prélèvement à la source avec Édouard Philippe et Gérald Darmanin. 2 grosses missions pour le président aujourd'hui. aujourd'hui. Sur l'impôt, il y a toujours ce hiatus entre les partisans de la réforme et ceux qui anticipent une catastrophe, surtout à l'aune des bugs de la phase test révélée ce week-end, notamment sur l'impôt prélevé sur les pensions de retraite, Laurent Kramer.
Du côté des caisses de retraite, on minimise l'importance de ces erreurs et on refuse surtout de porter le chapeau. La CNAF, par exemple, est prête depuis l'an dernier, souligne son directeur Renaud Villard.
On gère 14 millions de retraités et sur ces 14 millions de retraités, évidemment, on est dans une phase intensive de tests et on a extrêmement peu d'erreurs et les rares erreurs ou anomalies qu'on a pu constater dans les phases de tests, elles sont évidemment toutes corrigées. Et je ne crois pas une seule seconde à l'hypothèse d'un accident industriel qui relève, à mon avis, plutôt d'une incompréhension du projet et de son caractère très technique.
Le système est prêt depuis des mois, confirme une autre source à Bercy, et les équipes ont le sentiment aujourd'hui d'être instrumentalisées pour justifier une décision qui serait avant tout politique. Ces 350 000 erreurs avancées pour le seul mois de février semblent évidemment démesurées, mais proviennent en réalité d'une fausse manipulation, un envoi en double réalisé par une soixantaine d'entreprises et une quinzaine de succursales de caisses de retraite complémentaires, en réalité, souligne un spécialiste, une goutte d'eau au regard des 35 millions de foyers fiscaux français.
Alors voilà pour la partie technique, mais la politique, c'est aussi de la psychologie, n'est-ce pas? Et ne serait-ce pas cela, après tout, la plus grande crainte d'Emmanuel Macron que cet impôt prélevé directement sur les salaires atteigne le moral des contribuables? C'est la théorie de l'économiste Gilbert Setz, professeur à l'université d'Aix-en-Provence.
Le passage au prélèvement à la source est une réforme qu'il faut envisager quand tout va bien et quand on n'a rien d'autre à faire. C'est une réforme qui aura une utilité très faible pour la croissance et l'emploi, sinon nulle, hein. Mais par contre, les inconvénients sont importants. Quoi qu'on en pense, débat sur le pouvoir d'achat est présent. Et cette question du passage au prélèvement à la source peut complètement percuter le débat sur le pouvoir d'achat, surtout que plusieurs des dispositions qui vont avoir un impact sur le pouvoir d'achat, comme la baisse des cotisations, l'arrêt de la taxe d'habitation pour 80% des ménages, bien ces changements vont se produire en fin d'année 2018, quasiment en même temps que le passage au prélèvement à la source. C'est quand même un choc fiscal d'une grande importance par rapport aux habitudes des citoyens et des contribuables. Pour éviter qu'il y ait des mauvaises interprétations et des mauvaises compréhensions de cette réforme, il faudra que les pouvoirs publics fassent preuve d'une pédagogie très longue et très coûteuse.
Gilbert Sept, économiste avec Laurent Kramer, est toujours au chapitre pouvoir d'achat. Ces petites lignes sur votre relevé de compte, commission d'intervention, frais pour rejet d'un prélèvement, des agios qui peuvent coûter très cher. Ils seront désormais plafonnés à 200 euros par an. Les banques s'y sont engagées hier, mais moins de 400 000 clients, les plus en difficulté seulement, en bénéficieront pour l'instant.
Et à 8h08, la rage des Brésiliens après l'incendie du musée national de Rio hier.
Ils sont descendus par milliers dans les rues pour dénoncer cette tragédie annoncée, des coupes dans les budgets de la culture et des sciences. Et c'est le plus grand musée d'histoire naturelle d'Amérique latine qui a disparu avec ses trésors. Imaginez la même chose en France. Est-ce qu'une telle catastrophe pourrait avoir lieu? Delphine Evenoux a posé la question au Muséum d'histoire naturelle.
Plusieurs dizaines de millions de pièces similaires à celles détruites à Rio, plus précieuses les unes que les autres. C'est sur un véritable trésor que veille Pierre Dubreuil, le directeur général délégué du Muséum d'Histoire Naturelle.
Le crâne de Néandertal, de Cro-Magnon, les restes de Lucie, irremplaçables. C'est comme si on brûlait la Joconde au Louvre.
Alors il faut anticiper au cas où le pire se produirait.
Par exemple, nous avons un herbier ici avec 8 millions de spécimens, qui est le plus grand herbier au monde. Nous avons numérisé cet herbier, donc si ce drame arrivait ici, nous ne perdrions pas la mémoire en même temps que les objets.
Car c'est malheureusement ce qu'il s'est passé à Rio. Collections et archives ont brûlé. En France, les normes sont strictes. Sur tous les sites du muséum, des agents de sécurité incendie sont postés 24 heures sur 24. Mais le risque zéro n'existe pas, prévient Pierre Dubreuil.
Le musée de l'Homme, c'est assez simple parce que le musée a été rénové il y a 2 ans. Les galeries du Jardin des Plantes, il y a une plus grande fragilité, notamment en ce qui concerne la galerie de paléontologie, puisque c'est un bâtiment historique, 1898, dans lequel nous avons investi quasiment 1 million d'euros pour mettre à niveau la sécurité incendie, mais il y a encore des zones de fragilité.
Les collections du muséum sont en cours de déménagement vers des locaux plus sûrs. Avant le feu, c'est en fait l'eau qui a accéléré la réflexion sur la protection des pièces. Au Muséum d'Histoire Naturelle, comme au Louvre ou encore à Orsay, les inondations de 2016 à Paris ont servi de répétition générale.
Et la France qui a offert au Brésil de l'aider pour expertiser les dégâts du musée national de Rio. Contre la violence de l'extrême droite en Allemagne, 50 000 personnes ont participé à un concert hier à Chemnitz. C'est là depuis la semaine dernière que des centaines d'extrémistes manifestent contre les étrangers étrangers et se livre parfois à des ratonnades. On a parlé de la rentrée d'Emmanuel Macron, que dire de celle de Theresa May? Quelle pression sur les épaules de la première ministre britannique, elle qui doit présenter aux élus le résultat de ses négociations avec Bruxelles d'ici 2 mois et demi. Face à elle, l'opposition, Antoine Gignot, et de plus en plus de députés de son propre camp.
C'est une attaque qui vient de l'intérieur. Avec l'accord que négocie Theresa May, la situation va presque empirer, explique David Davis, ancien ministre du Brexit, pendant que Boris Johnson, ex-ministre des Affaires étrangères, parle d'une victoire de Bruxelles par chaos. Les deux hommes ont quitté le gouvernement cet été. Ils entraînent maintenant avec eux les élus conservateurs frustrés par l'absence de progrès dans les négociations, y compris les proches de Theresa May. Ce qu'on nous propose, c'est une humiliation, explique Nick Bowles, député de Grantham et Stamford, jusqu'ici soutien inconditionnel de la première ministre et qui regrette l'absence de solutions crédibles pour l'Irlande. David Jones, lui, pointe la mauvaise stratégie du gouvernement. On dit depuis le début que l'Europe ne va pas vouloir de notre plan pour le Brexit, mais on oublie qu'il y a surtout au Parlement de nombreux députés conservateurs qui ont déjà clairement dit que ce plan, ils ne le soutiendraient pas. La Première ministre n'a pas le choix, dit-il, il faut qu'elle trouve une solution alternative. Cette solution, le temps manque pour l'imaginer. Le congrès annuel des conservateurs a lieu dans moins d'un mois. Et plusieurs piliers du parti, comme l'ancien dirigeant de Rolls-Royce, Simon Robertson, réclament maintenant un second référendum sur le Brexit. Londres, Antoine Gignot, France Inter.
Donald Trump se réveille à propos d'Idlib en Syrie. Dans un tweet, il met en garde Bachar el-Assad, les Russes et les Iraniens qui commettraient une grave erreur en attaquant la province. Des centaines de milliers de personnes pourraient être tuées, écrit-il. Ne laissons pas faire ça.
Et c'est peu ragoûtant à l'heure du café à 8h12, mais fort intéressant, Florence, la révolution des greffes fécales.
Et oui, bienvenue dans le monde merveilleux du microbiote intestinal. Ces milliards de bactéries que nous portons tous dans nos entrailles et qui peuvent réparer un terrain abîmé grâce à la transplantation d'un porteur sain vers un malade. Exemple avec des patients cancéreux et ces résultats très encourageants de la biotech lyonnaise MAD Pharma. On a réussi, Véronique Julia, à restaurer leur microbiote après leur chimiothérapie.
Dans cet essai, il y avait 25 patients traités pour une leucémie aiguë, dans leur cas, le traitement de routine est une forte chimiothérapie, suivie d'une prise d'antibiotiques, puis d'une nouvelle série de chimio. Mais ces soins abîment la flore intestinale, le microbiote s'appauvrit, les patients maigrissent et sont très vite à bout de force. L'essai a consisté à prélever leur propre microbiote avant le traitement, à congeler ce microbiote par moins 80 degrés, puis à leur retransplanter après la prise d'antibiotiques. Très vite, les bactéries recolonisent l'intestin. Joël Doré est chercheur à l'INRA et conseiller scientifique de MAD Pharma. Un an plus tard, première conclusion de cet essai de phase 1, la méthode semble efficace. Avec la transplantation, le patient résiste mieux à la suite du traitement.
C'est les contextes où la plupart du temps, les gens deviennent de plus en plus fragiles et perdent du poids. On perd jusqu'à 15% du poids à la première chimiothérapie. Et puis, habituellement, il n'y a pas de regain de poids. Là, en l'occurrence, on a la moitié des patients qui reprennent du poids. On est capable de reconstruire les paramètres globaux de l'état de santé de l'individu. Les patients retrouvent très très vite une immunité normale, très apaisée en fait.
Un an après, les patients affichent 84% de survie. Cette première phase a permis de confirmer le concept. La prochaine étape sera de tester la méthode sur davantage de patients, sans doute courant 2019. La transplantation qui s'est faite jusque-là par voie basse se fera à ce moment-là sous forme de comprimé.
Avant, Florence, quand on avait une question sur le microbiote intestinal, par exemple, on disait « regarde sur Internet ».
Et qu'est-ce qu'on dit maintenant ?
Google !
Eh ben oui, « regarde sur Google », c'est dire l'omniprésence du moteur de recherche qui fête ses 20 ans aujourd'hui. Google, le mastodonte aux 100 milliards de dollars de recettes, a littéralement écrasé ses concurrents, Philippe Rondet.
Lorsqu'on demande aux Parisiens et aux Parisiennes s'ils connaissent d'autres moteurs de recherche que Google...
Je sais pas trop en fait.
Moi j'utilise principalement Google en vrai.
Google, oui je m'en sers, mais les autres, pas trop, non. On me l'a installé, c'est facile.
C'est facile, et en 20 ans Google a envahi l'hexagone, plus de 90% de parts de marché, une supériorité qui inquiète Benjamin Sontag, cofondateur de la Quadrature du Net.
Si Google choisit de désindexer un site, il disparaît de l'Internet parce que les gens ne voient plus qu'à travers la loupiote Google. Et donc Google, ses ingénieurs, décident quel site ils vont indexer, à quelle vitesse, est-ce qu'ils le mettent devant ou derrière tel autre selon les mots qu'on recherche. C'est ça leur métier, c'est colossal. Si demain vous ouvrez un service de vidéo, comment voulez-vous écraser YouTube alors que c'est Google? Évidemment, Google va favoriser YouTube dans les résultats de recherche. Donc voilà, c'est une influence qu'il faut questionner parce qu'elle n'est pas élue et parce qu'elle est cachée, parce qu'elle est présentée sous la forme de jolis services. Et ça, c'est assez effrayant. C'est une discussion de société qu'on n'a pas eue.
Et à l'heure qu'il est, il existe deux autres moteurs de recherche en France, Bing, qui appartient à Microsoft, et le petit dernier, le français Quant, lancé en 2013, qui revendique une part de marché de 5% dans l'Hexagone. D'autres moteurs de recherche comme Lilo ou DuckDuckGo s'appuient sur les algorithmes de Google ou de Bing pour fonctionner.
Et bon anniversaire Google, un dossier, des bougies et une petite perfidie sur franceinter.fr. Le service web s'est intéressé aux erreurs de Google. Un mot de tennis avec l'énorme déception de Roger Federer en huitième de finale de l'US Open tout à l'heure. Federer battu en 4-7 par le 55e mondial, l'Australien John Millman. Il ne rejoindra donc pas Novak Djokovic en quart. Enfin, on vous emmène au cinéma avant les sorties de la semaine. Demain, Eva Bétan a choisi de nous parler de Sophia, le dernier film de Meryem Benbarek. Sophia, ou la condition des femmes au Maroc, où les relations sexuelles hors mariage sont interdites.
S'il y a un moment où le temps est compté, c'est bien celui-là. Sophia est sur le point d'avoir un enfant, mais elle est dans l'illégalité car elle est enceinte hors mariage. Comment font les femmes pour accoucher dans ces cas-là ? Meryem Benbarek.
L'hôpital n'a pas le droit. Ou alors, elles ont suffisamment d'argent pour s'offrir les soins d'une clinique privée. Ou alors, elles tombent sur des médecins ou des sages-femmes qui veulent bien prendre le risque de faire avorter des femmes ou de les accoucher et qui prennent le risque de perdre leur travail. C'est déjà arrivé.
Un film de dénonciation qui a l'ambition aussi d'inscrire la situation des femmes dans leur environnement social et de révéler les rapports de pouvoir. On peut ainsi, comme Sophia, être victime de lois patriarcales et en même temps, parce qu'elle est d'une famille bourgeoise, être en position de domination face à un homme très pauvre. Les différences de classe sociale structurent la société. Cela passe aussi par la langue que l'on parle.
Les gens qui sont issus des milieux privilégiés s'expriment plus naturellement en français, puisqu'ils vont dans les écoles françaises, qui sont des écoles privées. La classe populaire parle la darija, le dialecte marocain. Vraiment, en fait, le français, c'est le curseur de l'échelle sociale, en fait. Les jeunes marocains des classes populaires ressentent une forme de mépris.
Par moments, on a de la sympathie pour Sophia, par moments, elle nous choque. La réalisatrice, subtilement, préfère l'ambiguïté à la démonstration.
Voilà le choix d'Eva Bétan, un film social, Sophia de Meryem Benbarek.
Merci Florence Paracuelos.